voudrais vous raconter l'histoire de la colère. C'est une colère qui vient de loin, qui vient de l'enfance et même de plus loin, de l'enfance des parents, des grands-parents. Une colère qui vient du fleuve quand on est né sur la mauvaise rive, du mauvais côté de la vie. Une colère qui vient du monde lui-même quand il insiste dans son indifférence. Une colère qui donne envie de crier, de prendre n'importe qui et de le faire payer. La colère a beau parfois être saine, indiquer qu'un seuil a été franchi, qui n'aurait pas dû l'être, indiquer qu'il y a quelque chose de non négociable, elle enferme néanmoins, elle ronge la colère. Elle est une passion triste qui diminue la puissance d'exister, et quand on s'installe dedans, elle change de nom et elle devient ressentiment. Je voudrais vous raconter l'histoire de la colère, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui justement ne s'installe pas dedans, un homme qui garde la colère, l'élan, le désir, le cri, le manque, l'envie, mais ne s'installe pas dans le gris de cette colère devenue ressentiment. Et grâce à quoi ? Par quel miracle ? Pourquoi échappe-t-il au gris quand certains de ses frères, arpentant le même asphalte, se sont laissés engloutir ? Est-ce la chance ? La loterie génétique ? Peut-être, mais pas seulement. Il y a la curiosité, et puis il y a l'amour. Au même pas l'amour qu'il reçoit, on n'en est pas encore là. L'amour en son sens le plus simple. Il aime la boxe, il aime les livres, il aime les films, il aime les couleurs dans le ciel, les merveilleux nuages, et c'est déjà suffisant pour ne pas tomber dans le gris. Aimer un poème, un film, un nuage, c'est déjà sortir de soi, se détourner un peu de sa colère. Il n'est même pas exclu qu'au sortir du livre, ou du film, ou du nuage, on la retrouve changée, la colère. Il continue, je vous rassure, à détester plein de choses. La rage est là encore, mais voilà qu'en face se présentent d'autres forces. Des contre-forces, aurait dit Nietzsche. L'homme en colère devient homme révolté. Le non de son refus se double du oui de sa vitalité. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne de son amour. Et lui non plus d'ailleurs, il le comprend, il n'a pas besoin d'être parfait pour être digne d'être aimé. On peut s'arracher à la nausée, écrivait Sartre, par la grâce de l'amour que quelqu'un vous porte, comme si ses yeux aimants, posés sur vous, avaient le pouvoir de justifier d'un coup votre existence absurde, de vous arracher à l'indifférence et au néant. Pour en parler ce matin, de tous ces pouvoirs de l'amour, j'ai la joie de recevoir Samuel Benchetrit, réalisateur, dramaturge, acteur, écrivain, parolier. Samuel Benchetrit qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour réfléchir avec nous à cette belle question, que peut l'amour contre la colère ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Samuel Benchetrit, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, très très bien.
Alors on va commencer direct, c'est l'idée de cette émission, hein. On parlera évidemment de vos livres, de vos films, de vos pièces et même des paroles de vos chansons. Mais avant cela, j'aimerais que vous me proposiez une réponse à cette question. Que peut l'amour contre la colère ?
Tout, j'ai envie de dire, ça peut tout. Je crois que l'amour c'est... La colère c'est quelque chose de plus facile presque, de plus proche. On peut l'attraper au vol, c'est très proche des hommes la colère. L'amour, c'est plus lointain, ça demande peut-être un peu plus de travail, mais c'est, mais surtout c'est vague, puisque dans l'amour, dans la colère, chacun a ses soldats. Donc dans l'amour, on peut choisir, on peut être un soldat de la tendresse, ou de la compassion, ou de la bienveillance.
Ouais, c'est intéressant.
Dans la colère aussi, c'est quoi la colère ? Ça peut être la rancœur, la vengeance. Donc il y a plein de soldats de ça, mais j'ai l'impression que ce que peut l'amour, en tout cas contre la colère, c'est l'apaisement. Voilà, ouais. La colère, ça emprisonne, l'amour, ça délivre.
C'est intéressant, les différents visages de l'amour que vous venez d'évoquer, là, compassion, bienveillance, tendresse. D'ailleurs, il y a beaucoup de tendresse dans votre travail, dans vos films, dans vos livres. Il y a souvent ce regard un peu burlesque, un peu loufoque, mais il y a quelque chose de tendre. C'est surprenant, d'ailleurs, on sait rare, finalement, autant de tendresse.
Ah oui.
Par exemple, dans votre dernier livre Revient, oui. Une relation entre un père et un fils. Alors, il faut pas spoiler, faut pas trop expliquer le titre, mais bon, on devine un peu vu qu'on a compris le thème. C'est très tendre. D'ailleurs, dans votre roman aussi Chien, que moi j'ai adoré, on en parlera tout à l'heure. C'est dur, hein, c'est dark, c'est quelqu'un qui, un homme qui devient un chien et qui aime justement comme un chien, c'est-à-dire peut-être pas du plus bel amour qui soit, quoique. Il y a beaucoup de tendresse, ouais.
Oui. Ben, les chiens, moi, je trouve que c'est un amour intéressant, justement, puisqu'un chien ne juge pas ce qu'on lui fait, il pense qu'il a fait lui du mal. Enfin, si on engueule un chien, il se dit « j'ai fait une connerie », il se dit jamais que l'autre a tort. Il n'est pas frappé d'injustice. parce que l'injustice, c'est quelque chose qui délivre beaucoup de colère. La tendresse, oui, je sais pas, c'est un truc sur lequel je peux miser, quoi. Moi, je me suis réveillé dans ma vie, mes jeunes années ont été très colériques, j'étais très en colère. Et j'ai l'impression que c'est ce soldat de la tendresse qui me protège. C'est un habit, quoi. Il faut essayer, je trouve, c'est un regard.
Vous avez été en colère contre quoi ?
Contre beaucoup de choses, je sais pas. Je trouvais que c'était... Je trouvais ça facile. C'était... Je sais pas, par exemple, je me réveillais en colère le matin.
Ah ouais ?
Ouais. Je me réveillais en colère. Et puis j'ai appris, d'ailleurs, au contexte de... près de l'amour, qu'on n'allait pas me garder. Que je n'allais pas garder l'amour, en tout cas. Qu'on allait me virer dans des situations amoureuses. Si je continuais à être en colère, comme ça, le matin... Alors ça se travaille.
D'ailleurs, ce roman Chien raconte quand même l'histoire d'un homme viré. Ça commence comme ça.
Oui.
Il est viré parce que ça... Alors je précise pour les auditeurs que c'est pas un roman qui est sorti récemment. Il est sorti, je dirais, il y a 5-6 ans. Mais moi, c'est presque... Enfin, je crois que c'est mon préféré de vous. Et c'est l'histoire d'un homme qui est viré par sa femme parce qu'elle est... elle se gratte. Et alors on comprend au début... Enfin, elle dit que c'est parce qu'elle a une maladie à son contact. Et puis après, peu à peu, on comprend que c'est parce qu'il devient un chien.
Oui.
Donc il se fait bien virer.
Oui, il se fait virer immédiatement, ça commence comme ça. Oui. Il se fait virer, elle est allergique au mec, quoi. Donc il va devoir avoir une sorte de parcours comme ça, un petit peu difficile. Mais justement, quand j'ai fait le film, je me suis fait allumer par des gens qui trouvaient que c'était terriblement dur. Et puis, en fait, moi, j'avais l'impression de faire la chose la plus tendre que j'avais faite de ma vie, c'est-à-dire de raconter l'histoire d'un type qui ne jugeait personne, qui se disait jamais... Enfin, en tout cas, qui trouvait des excuses aux autres, qui se disait « c'est pas injuste, c'est pas grave ». Mais on le supportait pas, ça.
Ouais, c'est étonnant. Il faut dire qu'il y a une différence entre le livre et le film.
Oui.
C'est que le livre, il y a une véritable prouesse dans le livre, c'est que c'est quand même dur à croire qu'un homme se métamorphose en chien. Voilà, ça rappelle la métamorphose de Kafka, évidemment. Mais vous avez plein de procédés très habiles, c'est très bien construit, qui fait qu'on peut y croire. Parce qu'au début, il achète un chien, parce qu'après, il rencontre un autre chien, parce qu'il achète des choses pour le chien qui se fait écraser, donc finalement, ça va être pour lui, etc. Mais c'est vrai qu'au cinéma, quand on a l'acteur qui se met à jouer le chien et se met à quatre pattes, c'est plus dur à regarder, quoi. C'est plus dur à accepter. Donc d'ailleurs, vous avez pris ce risque dingue d'essayer d'en faire un film.
Oui. Mais ça m'a beaucoup amusé. Puis dans le livre, il y a cette voix permanente, comme ça, qui est pas dans le film. Et mais c'est un travail intéressant. Je trouve justement, c'était mon sujet, le sujet m'intéressait parce que c'est un sujet de colère qui était justement qu'on pouvait raconter sous forme d'amour.
Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux.
Alors, on a reconnu évidemment la métamorphose de Kafka. C'était une influence majeure, j'imagine, pour vous. Peut-être que vous avez lu aussi Truisse de Marie Dariussec.
Oui, beaucoup.
Et ça s'inscrit quand même dans cette filiation. Vous disiez tout à l'heure, oui, j'aime l'amour du chien. Et on était dans notre thème, cet amour-là fidèle, inconditionnel. Le chien, il va pas avoir le sentiment d'injustice. Il va pas se dire c'est pas juste et se mettre en colère. Il l'accepte et il aime quand même. Il se dit qu'il y a une bonne raison si on le bat, si on l'humilie. Et vous aviez cette idée noble de cette beauté de l'amour-là, mais il y a quand même aussi l'humiliation. Et moi, j'avoue que j'ai été très surpris, je ne vous connaissais pas bien quand j'ai lu ce livre, je me suis dit de deux choses l'une. Soit il est très bon, comme écrivain, et il arrive à créer une fiction, il se met dans la place d'un personnage, vraiment, et qu'il a créé. Soit l'humiliation, il l'a connue, pour en parler comme ça.
Est-ce qu'il y a un rapport... je suis très bon.
Ouais. Bon, ok, c'est la réponse. Parce que c'est... Alors, c'est un peu bizarre de parler à ce point de ce livre en plein été, comme ça, les gens sont sur la plage, on leur recommande Chien. Mais c'est vrai que c'est quand même l'histoire d'un homme humilié. Sa femme le fout dehors, son fils ne parle plus trop, enfin au début, parce qu'après il y a une réconciliation. Cette expérience de l'humiliation, vous voyez qu'elle a quel rapport avec la colère ?
Elle est, encore une fois, c'est-à-dire que c'est l'amour qui apaisera. On gagne toujours dans l'amour, on perd toujours dans la guerre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si on fait un procès, par exemple, on est embarqué dans ce procès, on perdra. Même si on gagne, on perdra. Ouais. Dans la notion d'affrontement, il y a toujours une perte. Dans l'amour, on gagne toujours. Ce personnage de Chien, quelque part, pour moi, il est un sage. Il est tout ce que je n'ai pas été parfois, dans des périodes d'humiliation, de séparation, ouais, de grande tristesse, où on commence par attraper les premiers trains de la colère, qui sont ceux qui sont évidents, qui sont là, montent. C'est facile. C'est très facile. Voilà. C'est comme de picoler. Ouais. C'est très facile. Le temps passe et il y a cette phrase de Jules Renard que j'adore où il dit « Combien d'hommes se sont suicidés alors qu'il aurait suffi qu'ils déchirent une photo dans des ruptures amoureuses par exemple ?» Mais il faut du temps pour ça. C'est au bout d'un certain temps quand le train de l'amour repasse. Mais des trains de l'amour, il en passe très peu. Il en passe beaucoup moins.
Faut être disponible quand même.
Faut être disponible et puis il faut peut-être avoir traversé. Parce que la colère, c'est pas que nul. Il en faut un petit peu parfois. Il en faut un petit peu même... contre la colère, contre soi-même, contre nos mauvais penchants.
Alors il y a un moment où ce chien, cet homme devient un chien, et puis à un moment il se retrouve viré de chez lui, il n'arrive plus à payer l'hôtel, normal parce que c'est un chien, et puis il se retrouve dans un parc, et là il aime la nature, la beauté de la nature,
oui.
Et il faut être redevenu un peu chien pour s'émerveiller à nouveau devant la beauté du monde. On a presque l'impression que vous dites ça à un moment.
Peut-être. Je sais que c'est quelque chose qui m'a frappé pareil plus tard dans ma vie. J'ai pas grandi entouré de nature. J'ai grandi dans une cité HLM à côté de Paris, donc la nature était pas très proche. Mais il y a quelque chose forcément de bouleversant. Quelque chose qui est, encore une fois, je reviens au thème, hein, comme l'amour, plus grand, plus, c'est une élévation de l'âme. Il y a quelque chose de plus immense qui met à la fois dans une humilité. La nature met rarement en colère, où faut être complètement taré.
La nature a un caractère effroyablement apaisant. C'est presque magique.
Oui.
Parfois, il suffit de marcher dans la nature et ça va mieux, quoi.
Oui. Ou complètement angoissante pour certains, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est mystérieux. Et pourtant, c'est partout. Et ce personnage, en fait, voit la nature dans la ville. Donc une branche où justement
ouais, c'est un parc public, hein.
Un square. Il va d'un seul coup s'émerveiller. Par exemple, il y a un sol pleureur sur les quais à Paris. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois ce sol, moi je suis bouleversé par cet arbre.
Où est-ce qu'il est ?
Il est sous un pont. Je crois que c'est pas loin du pont du Carrousel, un truc comme ça. Mais
ouais. Je recommande à nos auditeurs, en plus de Chien, bien sûr, à lire sur la plage, un livre très très bon sur la question de la beauté de la nature, sur comment la beauté de la nature a ce pouvoir de nous apaiser. C'est Devant la beauté de la nature, d'Alexandre Lacroix, aux éditions Alary. Je vais lire un extrait de Chien pour qu'on comprenne aussi le réalisme paradoxal, en fait, de ce texte, et qu'on comprenne, en fait, comment vous avez réussi, finalement, à rendre la chose plausible, la chose qui était quand même éminemment difficile. Il ne me considérait pas comme son père. Au-delà du fait que je ne l'étais sûrement pas d'un point de vue biologique, ma femme avait tout fait dès sa naissance pour nous éloigner. Elle avait réussi à construire un mur épais entre nous. Les premières briques avaient été posées à la maternité, lorsque ma femme m'empêcha de prendre le bébé dans mes bras. « Tu ne devrais pas le porter, tu es sûrement malade. »« Je ne suis pas malade. »« Tu en es certain ?»« Je me sens bien. »« Tu es souvent malade. »« C'est vrai, mais tu as toussé hier. »« Ah oui ?»« Oui, au déjeuner. » »« J'avais sûrement avalé de travers. » Ne prenons pas de risques. C'est un tout petit bébé, très faible. Attends qu'il soit immunisé pour le toucher. J'attendis 2 ans. Le temps qu'il dorme dans sa chambre. Je programmais mon réveil 2 heures avant mon lever habituel et j'allais m'installer sur la petite malle près de son lit. J'aimais ces moments. Même si je craignais que ma femme me surprenne, j'avais préparé des excuses. Il a fait un cauchemar, il a toussé, il m'a appelé dans son sommeil. Oui, il a hurlé mon nom. Je n'ai pas touché mon fils cette première nuit. Il en a fallu plusieurs. Ma femme avait réussi à me convaincre de ma mauvaise santé permanente. Je faisais partie d'une espèce trop sale pour entrer en contact avec d'autres peaux neuves et saines. Et la première fois que je le touchais, je ne m'étais pas convaincu du contraire. Je déposais mon doigt sur son front comme un égoïste, risquant de contaminer l'être pur endormi pour mon seul plaisir personnel. Je caressais son profil, du front au menton, tout était là, parfaitement à sa place. Lorsque mon fils ouvrait les yeux, nous restions accrochés l'un à l'autre et souvent, il lui arrivait de me sourire avant de repartir dans son royaume. Peut-être que lui-même venait désormais me voler dans sa chambre la nuit pour se rappeler mes visites nocturnes. Tel était notre lien, secret et silencieux. Mais le jour arrivé, nous reprenions chacun notre place derrière le mur qu'avait construit ma femme. Alors, il y a tout dans cet extrait, et je l'ai aussi choisi pour arriver à un autre thème que je voudrais aborder avec vous. Il n'y a pas que le thème du chien, c'est le thème de la paternité. Je trouve qu'il court comme ça, de livre en livre. Je trouve que vous en parlez très bien. Alors là, évidemment, c'est sous un jour douloureux, puisque finalement, c'est cette femme qui va faire de cet homme un chien en lui interdisant, au fond, d'être un père. Mais vous en parlez souvent, de cette question. D'ailleurs, vous avez aussi écrit une pièce de théâtre « Maman », dans laquelle Vanessa Paradis, votre femme, joue pour la première fois sur les planches, je crois.
Oui.
Donc cette fois, c'est la maternité. Et j'ai lu dans une interview de vous que pas mal de vos livres ou films n'avaient peut-être pas suffisamment marché, en tout cas à vos yeux, parce que je crois que parfois la critique a été très bonne, mais qu'il y a une chose que vous étiez certain d'avoir réussi, c'était votre rôle de père.
Eh oui, oui. C'était beau, hein, c'est la musique de Gonzalez en plus, c'est très très beau.
Ouais, c'était Chili Gonzalez.
Ouais, Chili Gonzalez. Ah oui, oui, moi je sais pas si ce que je suis le plus quand on demande. Moi je crois vraiment que je suis un père. Enfin, ça m'a surpris d'être un père, je pensais pas être un père. J'ai pas voulu être un père. Mais c'est arrivé. Et puis.
Et jeune, assez jeune.
Ah oui, oui, jeune. J'ai eu mon fils à 24 ans. D'ailleurs, cette année, il a 24 ans. Alors j'aurais passé plus de temps avec lui que sans lui, et ça me rassure beaucoup. Mais et puis j'ai une fille aussi qui a 15 ans. J'aime beaucoup être avec mes enfants, ça m'intéresse beaucoup. J'essaie d'avoir le plus de temps possible.
Votre dernier livre revient et dédié à votre fille, je crois.
Oui, et ça parle de mon fils beaucoup.
Ouais. Et il y a un autre livre d'Alexandre Lacroix, je ne sais pas pourquoi toujours lui, que je vous recommande, qui est incroyable, ouais. Qui s'appelle « La naissance d'un père ». J'ai trouvé une chambre d'écho intéressante. Donc c'est Alexandre Lacroix a 5 enfants. Il raconte ce que c'est qu'être un père, les premiers âges, l'enfance, l'adolescence, la nuit, les couches. C'est un père qui met la main à la pâte et qui aime ça. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de viril dans cette tendresse-là aussi.
Très viril, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou de très féminin, et c'est merveilleux.
Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue.
C'était évidemment Alain Bachung, Vertige de l'amour.
Sous le soleil de Platon.
Ah bah, dis donc. Alain Bachung. Ouais. Arnaud.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Samuel Benchetrit, sous le soleil de Platon. Samuel Benchetrit, que j'ai même pas présenté tout à l'heure. J'ai même pas parlé de tous ses films, Chez Gino, Cette musique ne joue pour personne, Chien, J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Ses nombreux livres, évidemment, Les chroniques de l'asphalte, 3 volumes, Le récit d'un branleur, il y a bien longtemps. Et puis, plus récemment, Chien et revient. On parlera après du théâtre. Mais est-ce que vous avez reconnu la voix d'Alain Bachung et d'Arnaud derrière?
Bien sûr, bien
sûr. C'est une scène, j'explique pour les auditeurs, assez géniale dans votre film, J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Où finalement vous avez Bachung et Arnaud qui n'ont rien à se dire dans un café.
Oui, c'est ça, oui. Bah, c'était le thème des voleurs. Donc, ils n'ont pas non plus rien à se dire puisqu'ils se rendent compte que Arnaud accuse Bachung de lui avoir piqué une chanson, en fait.
Ouais.
Et Bachung lui dit, je sais plus si je t'ai piqué une chanson, mais je sais que tu m'as piqué ma gonzesse, toi. Donc, c'était un jeu comme ça, un petit peu. C'était amusant.
Et alors, on retrouve dans cet exemple votre sens du burlesque ou du loufoque, quand même, de l'absurde, au fond, presque, un humour belge, parfois, je dirais. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est un remède à la colère?
L'humour?
Cet humour-là, qui est quand même assez barré, oui. Presque baroque, on pourrait dire burlesque, non?
Oui.
Absurde, en fait.
Oui, c'est ça. L'absurdité, ça va avec plein de choses. Alors, je sais pas si c'est... Oui, c'est un remède à la colère, en tout cas, c'est une protection. Voilà, de se réfugier dans l'absurde, à un moment donné, c'est les enfants, par exemple, ont une forme d'absurdité, c'est échapper au sérieux. C'est échapper au sérieux, en tout cas, c'est une belle armure, je crois.
J'en manque de chlorophylle. Moi, quand on venait ici, c'était mes vacances, ils étaient là, mes congés payés. Ça fait 25 ans, moi, j'ai pas vu de campagne. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe. Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre, sentir un petit vent frais autour du gland. Putain, pisser contre un arbre. Et l'embrasser, après.
Alors, on a reconnu Jean Rochefort dans cette autre scène de votre film. Et c'est encore un peu de burlesque. Alors, l'embrasser après, on ne s'y attendait pas.
Oui, c'est Rochefort un peu aussi, je crois, qui a poussé à l'air.
Il est parti en impro, non?
Non, il n'est pas parti en impro, mais c'est facile d'écrire pour Rochefort. C'est ça qui est fou. Ils sont tellement grands acteurs que... Il y a une musique qui s'impose, quoi. C'est comme de choisir une guitare. Et Jean, c'était ce monologue. Je savais qu'il allait le dire comme ça, mais pourtant, au début, il n'y arrivait pas. Et c'était assez étonnant de remettre sa propre lumière en route.
Il y a eu plusieurs prises.
Oui.
Ouais, c'est marrant.
Mais oui. Immense acteur.
Alors, sur l'absurde, sur cette espèce d'esprit burlesque, si on essaie de faire une petite lecture philosophique, on peut se dire, voilà, au fond, peut-être que c'est l'existence qui est absurde et pas une scène et pas le film. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça d'indéterminé, d'indifférent au cœur du monde. D'ailleurs, c'est quelque part, sous un jour plus angoissant, la thèse de Sartre, hein, soit dans le roman La Nausée, soit même dans L'Être et le Néant, qui explique qu'au fond, voilà, les choses sont là, ça n'a pas de sens. L'être, au fond, n'a pas de raison d'être. Mais précisément, on est surpris de lire sous la plume de Sartre, lui qui est quand même un génie puissant, un peu cynique, il n'est pas du genre à tomber dans la mièvrerie du sentiment amoureux qui libère de tout. Et ben finalement si, dans un livre très abscons, très épais, très dense, soudain il y a des pages dingues sur l'amour, où Sartre dit la chose suivante, en fait, tout, rien n'a de sens, nous sommes là sans raison, aucun dieu n'a voulu notre existence, et c'est ça au fond, le néant, et c'est pour ça qu'on a une sorte de nausée. Mais quand quelqu'un se met à nous aimer, soudain notre existence est justifiée. Et cette espèce de colère qu'on pourrait avoir face à l'absurdité de toute chose, au fond, s'évapore parce qu'un regard aimant se pose sur nous.
Oui. Bien sûr. C'est très beau. Je sais pas, moi, je partage pas tout ce qu'il dit, mais ça, oui. En tout cas, je sais que... Quand on, alors justement, pour tomber dans un peu de niaiserie aussi...
Ouais, mais si elle est sartrienne, ça va.
Non, quand on nous demande le sens de la vie, souvent, nous, c'est forcément l'amour. Enfin, je comprends même pas qu'on pose encore cette question, dépasser les 13 ans. C'est évidemment l'amour, d'aimer ou d'être aimé. Puisqu'il y a que ce moment où on atteint un peu quelque chose de l'ordre de l'infini, de l'ordre de qu'on peut voir un peu d'invisible. C'est très étonnant ce que ça fait.
Mais il y a un livre que j'aime bien de Fabrice Midal, philosophe et professeur de méditation, qui porte pour titre « Si de l'amour on ne savait rien », et qui dit qu'au fond c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour que ça nous fait tant de bien.
Peut-être, oui. Oui, c'est inattrapable. On ne sait pas. Encore une fois, moi je ne sais pas ce que c'est aimer. Mais je connais certains de ces, on se le disait au début, je connais certains de ces soldats, je connais certains de ces, je sais pas ce que c'est que, c'est comme je connais pas toute la nature, je connais une partie de la nature.
Les soldats que vous avez évoqués au début, je me souviens, il y avait la bienveillance, il y avait la tendresse.
Oui, il y en a beaucoup.
Essayez de vous souvenir du moment où vous êtes un adolescent en colère, vous l'avez dit vous-même, un peu en rage. Le premier soldat qui s'est présenté à vous, c'est lequel?
Dans les soldats de l'amour?
Ouais.
Ah, je crois que c'est celui de la, je sais plus. Je crois que c'est celui de la de quelque chose de complètement qui est entré en moi, qui n'était pas quelque chose que je pouvais définir justement. Il y avait ce frisson de la pensée, de penser à l'autre, qui déclenchait l'imagination, de rêver,
ouais.
De rêver éveillé, de rêver à quelqu'un. C'était ces choses là. Que je voyais aussi, qui me donnait déjà envie en regardant des films, en voyant d'autres vivre ces passions-là.
Dans le travail qu'a fait la philosophe Cynthia Fleury sur le ressentiment, elle montre que justement, toute la question, c'est ce que j'évoquais au début de l'émission, c'est comment on fait pour qu'une colère, qui peut être saine, il y a des belles colères, parfois on a raison de se mettre en colère, il y a des choses qui sont pas acceptables, comment on fait pour que la colère ne dégénère pas en ressentiment, c'est-à-dire en un rapport au monde global tout à fait grisâtre, dans lequel on en veut à la terre entière, mais de façon morne, de façon grise, en fond. Et elle voit deux manières, en fait, de garder la belle colère et qu'elle ne dégénère pas en ressentiment. L'une, c'est du côté de l'amour, et l'autre, c'est du côté de la créativité. Or, il se trouve que vous êtes quand même très créatif, hein. Il y a quand même, vous allez dans plein de directions, vous êtes dramaturge, vous faites des pièces de théâtre, vous faites des romans, des récits, des films, des paroles de chansons.
Je suis très en colère, c'est pour ça.
Et du coup, cette créativité, comment vous la vivez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous mettez sur une pièce, un moment sur une parole de chanson, un moment sur un livre? Qu'est-ce qui se joue là?
Les paroles de chansons, c'est autre chose. C'est parce que je vis avec une chanteuse qui, d'un seul coup, on a envie de travailler ensemble. Donc, il y a quelques textes comme ça.
Une jeune chanteuse prometteuse, Vanessa Paradis.
Voilà. Et puis, des copains chanteurs, des gens comme ça. Mais le reste, c'est surtout de... Je sais pas, ça vient me taper sur l'épaule. Et puis, parfois, c'est une pièce, parfois, c'est un film ou un livre.
Alors, vous avez fait, dans le dernier album de Vanessa Paradis, qui s'appelle Les Sources, je crois 5 ou 6 chansons. La plus connue, c'est Les Mots Simples. Mais je propose qu'on en écoute une autre qui, moi, m'a plus touché. On oubliera.
Garde qu'un baiser.
Alors c'était On oubliera, une chanson écrite par Samuel Benchetrit pour Vanessa Paradis.
C'est Vanessa qui a fait la musique, c'est très beau.
Elle l'a composée ?
Oui, ouais. Oui, oui.
Et c'est la première fois que vous faisiez des paroles de chansons ?
Non, j'avais fait déjà.
Pour qui ?
Oh, pour des chanteurs, pour Raphaël par exemple. Ouais.
C'était quelle chanson ?
Je ne sais plus les titres.
Et donc quand il y a un petit miracle en fait, une chanson c'est 2 minutes 30, oui. 3 minutes, on a parfois l'impression que ce qu'on n'arrive pas à faire dans un livre, ce qu'on n'arrive pas à faire dans un film, parfois ce qu'on n'arrive pas à faire dans une vie entière, c'est-à-dire un peu réconcilier les contraires, ne pas mentir, dire, toucher le vrai, parfois on y arrive en une chanson de 2 minutes 30. Oui. C'est quoi ce miracle ?
Je sais pas, c'est très dur. C'est quelque chose qui est très compliqué d'écrire des chansons, je trouve. Disons que c'est un état d'esprit à saisir... Mais tout, enfin, de passer, par exemple, d'écrire un livre, c'est très très différent d'écrire une pièce. Par exemple, les pièces de théâtre, moi, ça me fait beaucoup souffrir. C'est très dur, cette unité, un peu comme ça, il n'y a pas de lieu pour s'échapper. Mais une chanson, c'est un état d'esprit. C'est entre la poésie et puis une sorte de pensée, et en même temps, ça doit rester ludique. Et c'est très très compliqué. Il y a des gens qui écrivaient des... Vraiment, ça me semble... Là, par exemple, je ne pourrais pas cet après-midi écrire une chanson. Je n'aurais pas cette inspiration.
On n'est pas sûr.
Comment ?
Oh, c'est pas sûr, on savait pas.
Non, c'est pas évident.
Dans votre dernier film, cette musique ne joue pour personne. Si j'essaye de résumer, ce que Hegel aurait pu appeler le contenu substantiel du film, en gros, de quoi ça parle. Mais dites-moi si je me trompe, c'est des gens, on va dire simples, qui découvrent l'art et qui sont réveillés ou éveillés par cette découverte de l'art. C'est ça, non ?
Oui, c'est ça. Je suis en train de lire en ce moment un livre merveilleux qui sont les conversations de Claude Sautet avec Michel Bouju. C'est merveilleux. Ouais. Et Claude Sautet, il dit qu'il a toujours du mal à résumer ses films. Alors il dit, les choses de la vie, c'est un mec qui a un accident de bagnole. Et Vincent, François, Paul et les autres, c'est des copains qui partent en week-end à la campagne. Je trouve que c'est assez drôle. Ça donne pas envie. Pourtant, ouais. Les films sont merveilleux.
Mais du coup, la question que pose ce film, c'est au fond, que peut l'art ? Voilà, tout à l'heure, on parlait de la beauté de la nature, mais là, c'est la beauté de l'œuvre d'art. On a l'impression... Vous l'avez vécu, ça ? Vous avez raconté cette enfance en banlieue. Quelle banlieue, d'ailleurs ?
À Champigny-sur-Marne.
À Champigny, ouais, c'est une banlieue assez douce, malgré tout. Mais c'était dans les chroniques de l'asphalte, par lesquelles vous êtes, on va dire, entré en littérature. Vous l'avez vécu, quand même, d'être dans un milieu où, finalement, à un moment, l'art arrive et perturbe les repères, déplace les lignes ?
Bien sûr, moi c'est le cinéma moi qui m'a bouleversé. Le cinéma est peut-être une prof de français aussi qui m'a donné un peu à lire et puis qui m'encourageait sur des rédactions, des choses comme ça. Mais après j'ai arrêté l'école très tôt. Mais les films, disons que les films c'est la première fois que je voyais qu'il y avait un créateur derrière tout ça. Il y avait quelqu'un. C'était peut-être pas tellement les acteurs qui m'intéressaient, mais c'était le type qu'on voyait pas justement.
Ouais. Et cette prof de français, elle vous a fait lire quoi ?
Elle nous donnait de la poésie. Alors elle m'avait offert Les Fleurs du Mal, j'y comprenais rien, mais je me disais que le jour où je comprendrais, ça serait merveilleux.
Bah c'est plutôt pas mal comme cadeau de prof de lettres.
Oui, c'était pas mal, oui.
Another Easter.
C'était These Days de Cat Power.
Sous le soleil de Platon.
Excusez-moi. Je pourrais faire des photos avec vous.
Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Samuel Benchetrit sous le soleil de Platon et nous parlons de l'amour notamment. Que peut l'amour contre la colère, mais l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on a pour un livre, pour un paysage, pour une œuvre d'art. Vous connaissez sûrement Samuel Benchetrit, la correspondance de Camus et de Maria Cazares.
Oui.
C'est un peu notre sujet, parce que avant de rencontrer Maria Cazares, Camus, il est sombre, il est dark, il est en colère. Pour lui, le monde se tient comme ça dans une absurdité opaque, dans une opacité indifférente. Et il a déjà commencé à écrire son livre, L'homme révolté. Mais l'homme révolté, c'est simplement un homme en colère, justement. C'est l'homme du non. Il dit non à l'injustice, il dit non à l'absurde, il dit non aux inégalités, il dit non à son sort, en fait. Et grâce à l'amour qu'il reçoit et qu'il donne, grâce à l'amour de Maria Cazares, il va découvrir un oui à la légèreté. Il va se sentir capable d'une joie de vivre simple, capable de consentir, d'acquiescer, finalement. Et c'est parce que le non de la colère se double du oui, comme ça, aux plaisirs les plus simples, aux joies les plus enfantines presque de la vie, que finalement, l'homme révolté va changer de nature. Et l'homme révolté, le livre, et ça on le sait pas, c'est le résultat en fait de cette rencontre avec Maria Cazares qui va impacter son travail, et ça va devenir autant un homme du non que du oui. D'où ma question, un peu longue, vous dites oui à quoi finalement vous ?
Ah, j'essaie de dire le oui le plus possible. C'est marrant que j'avais fait un film Asphalte où j'étais parti du premier dialogue qui devait être non et je voulais que le dernier dialogue soit oui. Il y a pas très longtemps, j'ai lu une chose qui m'a plu qui était ce que tu peux pas éviter, embrasse-le. Je trouvais que c'était un bon mantra. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu éviter, que j'aurais vraiment aimé éviter. Alors j'essaie de me dire ça quoi. J'essaie de ça passe par le temps aussi, ça passe par le Je crois que il faut essayer de dire oui. C'est important de dire oui.
Ça me rappelle quelque chose que vous devez connaître. La réponse est oui. Mais quelle est la question?
Oui.
C'est Woody Allen.
Oui, c'est ça.
J'adore
cette
phrase.
Ouais.
Moi, c'est presque celle-là, mon mantra de vie.
Ouais, je comprends.
Ah, ça, c'est un peu dangereux parfois.
Ouais. Moi, il y a un autre truc que j'aime beaucoup aussi qui vient du judaïsme, qui dit, pour celui qui est à la foi, il n'y a pas de question. Pour celui qui ne l'a pas, il n'y a pas de réponse. Je trouve ça assez beau aussi.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Ouais, c'est beau.
Nietzsche parle aussi du grand oui à la vie, hein, le ja sagen. Alors, il dit, il faut dire oui à tout. On peut pas dire oui que à ce qui est bon, hein. C'est un oui inconditionnel. Soit je prends tout, soit je prends rien. C'est pas un peu dangereux parfois?
C'est très dangereux, mais c'est très dangereux de vivre. De toute façon. Il vaut mieux avoir un maximum de oui, quoi. C'est plus de points gagnés. Il y a quelque chose comme ça. De toute façon, bizarrement, le oui, l'envie, l'amour, le désir, c'est quelque chose d'invisible, mais il y a, enfin, en tout cas, je m'y prends autrement. Dans la colère, pour revenir à ça, ou dans le non, il y a quelque chose qui ne s'apaisera pas, c'est vain. J'ai l'impression que dans le oui, il y a une sorte de oui, de régler le problème. Oui, ouais. C'est fini. Oui, c'est fini.
Marrant, ça me fait penser au pardon, ce que vous dites. Le pardon, c'est de relancer la dynamique du oui, au fond.
C'est la question essentielle. On a tous beaucoup de choses à pardonner. Et ceux qui y arrivent le plus vite possible sont les plus forts. Ils ont gagné.
C'est marrant, il y a deux choses qui reviennent dans votre bouche. Le temps, vous n'arrêtez pas de dire que ça prend du temps, le temps peut guérir nos peines. C'est marrant, je n'avais pas pensé à ça. Et puis l'invisible, c'est étonnant. Oui. Ça fait plusieurs fois que vous dites que c'est invisible. Ça me surprend parce que c'est vrai que Au début, moi, je présentais l'amour dans cette émission d'une manière assez visible. Quelqu'un qui aime la boxe, je sais que vous avez fait de la boxe et du karaté. Quelqu'un qui aime des choses palpables. Et puis même quand on aime quelqu'un, il y a des gestes d'amour, on touche son corps, il y a des regards. Finalement, c'est plus visible qu'invisible, non ?
Je sais pas, c'est de la mécanique, ça.
Ouais.
Non, mais c'est un peu moche de dire ça. Je sais pas, moi, je suis transporté d'amour d'une façon incroyable, seul, dans la solitude. Elle m'habite énormément. Je passe beaucoup plus de temps seul qu'avec d'autres, personnellement. Donc forcément, j'y mets une grande touche d'invisible, quelque chose. D'invisible, ça se rapproche aussi, bien sûr, à une mystique, au spirituel. Mais c'est incroyable, parce que ça me remplit, en tout cas, intérieurement.
Parce que vous avez quand même commencé par la photographie.
Oui.
La photographie, c'était de saisir l'invisible ?
C'était surtout d'avoir envie de faire du cinéma, et ouais. J'avais pas les moyens de pouvoir faire une école de cinéma ou les contacts. Donc la photographie, c'était de l'image. Moi, ce que m'a appris la photographie, c'était quelque chose de confiance en moi. C'est-à-dire que l'endroit où j'étais devenait le plus important puisque j'y étais. Et mon attention, mon regard. Si on demandait, par exemple, on devrait les élèves souvent leur dire « C'est une journée avec un appareil photo, aujourd'hui il faut faire des photos. » On ne verrait pas du tout la journée de la même façon. Ce serait étonnant. On verrait peut-être autant peut-être de colère que d'amour, mais on verrait des injustices, puis des gens s'aimer, s'embrasser, c'est... Des gens qui s'embrasseraient devant nous, on aurait envie de les photographier, par exemple.
Vous dites c'est mystérieux, il y a une mystique de l'invisible. Finalement, donc vous avez grandi dans une culture juive,
oui.
Mais je crois avec un rapport assez distant au judaïsme.
Oui, moi maintenant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la foi. Je suis redevenu très croyant à un moment.
Ah oui.
Oui. Et il y a quelque chose qui m'intéresse justement dans cette notion de paix, de joie, en fait, voilà. J'ai compris à un moment donné que c'était terrible d'être triste, qu'il fallait laisser le moins de place possible à la tristesse, qu'il fallait essayer le plus possible d'être heureux, le plus possible.
Alors, la joie n'est pas exactement le bonheur. Quand on vous entend parler, on devine que la joie, c'est cette émotion comme ça qui surgit, et presque comme une contre-force, un contre-poison à la tristesse. Donc, au fond, il faut de la tristesse pour qu'il y ait de la joie.
Oui.
Alors que le bonheur, c'est plutôt un état durable, égal, de satisfaction. Il y a ce livre génial de Clément Rosset, alors je recommande beaucoup de livres ce bâtard, mais quand même, celui-là, vraiment, il doit accompagner votre été, c'est La Force Majeure, je pense que vous le connaissez, Samuel.
Non, je vais le noter.
Alors franchement, notez-le parce que ça va vous parler. La Force Majeure de Clément Rosset, c'est un livre qui fait, c'est pas pour ça que ça va vous parler, 45 pages, mais franchement, chaque page, c'est de la bombe, chaque page est incroyablement riche. Que nous dit Clément Rosset ? Qu'au fond, la joie, la vraie joie, est contrarié ou n'est pas la joie. C'est-à-dire que si j'attends pour dire oui à la vie, pour consentir, pour savoir dire ce grand oui à la vie nietzschéen, si j'attends d'avoir réglé tous les problèmes, si j'attends d'être libéré de tous les maux, au fond, je ne serai jamais joyeux. Mais je dois être joyeux malgré tout. Je dois être joyeux quand même.
Mais bien sûr.
Et donc la joie, dit Clément Rosset, est paradoxale ou n'est pas la joie. Si tu as une joie tranquille, apaisée, sereine, durable, ce n'est pas de la joie.
Mais bien sûr. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Pardon, je reviens à un texte rabbinique parce que ça m'a intéressé, mais ce qui est une forme de philosophie quelque part. Hein. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui disait il y a très longtemps, si un homme passe 40 jours sans aucun problème, il est complètement en désintérêt des cieux, quoi. Le type est plus du tout intéressant. Et pour pouvoir justement y trouver une forme de joie, c'est-à-dire que les plus grands bonheurs sont quand même ceux qui viennent après une tempête ou après quelque chose de... C'est assez beau, ça. Si on était tout le temps amoureux, tout le temps heureux, ça serait étrange. Moi, je connais personne comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est la joie contrariée, c'est la vraie joie. Et c'est quoi ce texte rabbinique ?
Je sais plus. Ouais. C'est des textes comme ça qui sont dans des espèces d'interprétations de Torah.
Ouais, je me souviens de Marc Alain Wachnin, que vous voyez peut-être qui c'est. Oui. C'est un rabbin qui a une émission sur France Culture. Et Marc Alain Wachnin, il parlait de ça une fois. Il disait en effet, si par temps calme, il n'y a pas de joie possible au fond.
Ouais, moi je me suis intéressé à ça parce que je suis né juif. Et puis je me suis intéressé, je suis pas allé à l'école très longtemps, alors j'avais un manque de philosophie. À 15 ans, j'ai même fait une dérogation, j'étais apprenti photographe après.
Ouais.
Donc je travaillais. Mais si j'avais connu la philosophie, ça m'aurait tellement plu. Alors je me suis intéressé à toutes sortes de textes, et puis à un moment donné, je me suis intéressé à ce qu'il y avait d'assez proche de moi, c'est-à-dire le judaïsme. Et je trouve qu'il y a énormément de choses très belles, comme il y en a certainement dans toutes les religions, évidemment.
Après, il y a aussi, dans le judaïsme, cet art particulièrement poussé de l'interprétation, de choses qui s'enfuient comme ça dans une série d'interprétations. On trouve ça quand même dans votre travail un petit peu, notamment cette façon de rebondir aussi. On n'a pas parlé de votre dernier livre, Reviens, où il y a, d'abord c'est très drôle, la construction est dingue, Et c'est l'histoire de, bah encore une fois, de, d'un enfant qui s'éloigne, qui quitte la maison de son père. Et dans ce texte-là, je trouve qu'on sent cette espèce d'amour, du rebondissement, où en fait il n'y a pas une vérité comme ça. Il y a quelque chose qui se joue là, dans cette interprétation. Hein.
Oui, je trouve qu'il y a, dans le livre, ce qui me plaisait, c'était cette espèce d'aventure assez folle, mais presque immobile, quoi. C'est-à-dire, le type, il lui arrive énormément de choses, mais entre son appart, son éditeur, une maison de retraite, c'est aussi un livre sur l'entre-deux.
Il faut quand même expliquer aux auditeurs, le début, c'est un producteur veut adapter son livre au cinéma.
En série, oui.
En série, mais il le retrouve pas.
Voilà.
L'éditeur a disparu, il n'y a pas de fichier, donc c'est complètement burlesque.
Oui.
Et donc, comment adapter un livre qu'on ne retrouve pas? Alors, évidemment, voilà. Ça veut dire aussi que le producteur n'a même pas besoin de le lire, le pitch suffit. Mais donc, ça commence comme ça, et puis après, il y a plein de péripéties, et on retrouve encore une histoire de paternité.
Oui. En fait, il a vécu toute sa vie avec son fils. Son fils s'est barré faire un tour du monde. Et après tout, est-ce que son fils n'est pas la base de son inspiration, ce qui était le cas. Il faut, quand les enfants partent, il faut se réhabituer d'un seul coup. Il faut inventer une nouvelle vie, je crois.
Dites-moi, Samuel Benchitrit, à quoi voulez-vous vraiment être fidèle? Alors, j'explique la question. Dans un séminaire de Jacques Lacan, l'éthique de la psychanalyse, il y a quelque chose d'assez fort où Jacques Lacan dit, voilà, moi j'en ai vu des gens qui se plaignent sur le divan, qui disent, voilà, j'ai pas été fidèle à mon engagement, j'ai pas été fidèle à mes valeurs, j'ai pas été fidèle à la promesse, j'ai pas tenu ma promesse. Et il dit, mais au fond, ça c'est pas grave, parce que la vraie fidélité, celle qu'on ne doit pas trahir, parce que si on la trahit, on va vraiment mal, c'est la fidélité à son désir.
Oui.
Alors ça, pour l'instant, on comprend, on dit, ok, il faut que je sois fidèle à moi-même, fidèle à mon désir. La phrase bien connue à la fin du séminaire « L'éthique de la psychanalyse », c'est « La seule chose dont l'homme doit vraiment avoir à se sentir coupable, c'est quand il a cédé sur son désir. » Le problème, c'est que ce désir est inconscient. Du coup, deux questions. Est-ce que vous pensez que vous êtes fidèle à votre désir? Et si votre désir est inconscient, comment vous pouvez savoir si vous êtes fidèle à votre désir inconscient?
Oui. Je sais pas, moi j'aurais du mal à dire que je suis complètement fidèle, je crois pas, je crois que c'est pareil, c'est comme la joie sans malheur, sans confrontation. On est rempli de mauvais penchants, enfin moi j'ai l'impression d'avoir toute la journée des propositions d'infidélité,
ouais.
Des propositions de trahison.
C'est ça, ouais. D'infidélité
et,
à soi.
Et donc c'est ce qui se passe est très compliqué, c'est jamais plat, ça bouge toujours un peu. Alors, je ne sais pas du tout si je suis fidèle. Pas tout le temps.
Voilà. De toute façon, la réponse de Lacan, on la connaît. Hein. L'infidélité à son désir se manifeste par des symptômes. On va mal, on fait par exemple une dépression.
Oui.
Une dépression, d'ailleurs, dont on imagine qu'elle a été à l'origine du livre Chien sur lequel on ouvrait l'émission.
Oui.
Mais effectivement, quand on n'a pas ces symptômes, au fond, si on arrive à vivre, c'est peut-être qu'on est fidèle à soi, à ce désir.
Oui, en tout cas, et puis il y a aussi ce qui se passe aussi dans l'infidélité, le symptôme aussi, enfin, ce qui se passe c'est quand on n'est plus du tout raccord avec sa pensée et son action.
Moi,
je, par exemple, on m'a dit que j'avais fait une dépression mélancolique, c'est pareil que c'est très grave comme forme de dépression, c'est les choses qui remontent. Et aussi à ce moment-là, j'avais quelque chose qui n'était plus en phase, je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire. Et pourtant, je le faisais quand même.
Oui, c'est exactement ça dont parle Lacan. Exactement.
Oui.
Vous aviez cédé sur votre désir
exactement.
Au sens lacanien.
Oui, là, c'est ça.
Et c'est ça qui est à l'origine du livre Chien.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est ça. Oui, Chien, oui. Mais encore une fois, je parlais de temps. Il m'a fallu. Je n'ai pas écrit à la sortie. J'ai mis quelques années à écrire Chien.
Et puis après, vous avez écrit Reviens. Et là, justement, c'est un peu la joie qui revient. Quelque chose
oui.
de plus léger. Quelque chose.
Je l'ai écrit très heureux.
Ça reste tendre. Ça se sent, oui.
C'est très heureux.
Ça se sent.
Ouais.
Peut-être que vous aviez retrouvé votre désir.
Ah oui, je crois. Mais c'est vrai. Hein. En tout cas, j'avais fait un voyage dans la jungle pour me remettre sur une route qui me correspondait mieux que celle sur laquelle je roulais avant. Quoi.
Merci beaucoup, Samuel Benchitrit, d'avoir partagé avec nous votre
Merci.
Chemin. Chemin de l'obscurité à la joie. Chemin par lequel on se rapproche de son désir. Pour vous remercier, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs ce matin la philosophie de la vie qui a été la vôtre pendant cette heure. Alors je dirais que c'est une philosophie à la fois burlesque et tendre, dark et lumineuse, pleine d'un humour aussi, j'ai envie de dire parfois belge, d'amour, de colère encore certes, mais de colère franchement dépassée, de colère apaisée, de colère digérée, j'aurais presque envie de dire de colère apprivoisée. Merci beaucoup Samuel Benchitrit de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Vera Louderide et Fabrice Riveau. Elle a été réalisée par Camille Mati. La programmation musicale est de Valentine Chudebois. Et à la technique, Félix Delacour.